se cache pour arroser. Parmi nos fleurs, nos immondices, c'est vous, sainteté, président, grande famille bourgeoise imberbe, qui arrachez depuis longtemps dans les jardins la mauvaise herbe. Tartuffe hypocrite curé, il coule vos murs du silence, sous des rideaux de lierre serrés, sous des parterres d'orties qui dansent. Qu'un jour tous nos jardins secrets, redevenus publics, fleurissent d'humbles chardons et d'orchidées, de lilas bleus et d'immondices. Qu'un jour tous nos jardins secrets, redevenus publics, fleurissent d'humbles chardons et d'orchidées, de lilas bleus et d'immondices.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est la radio aussi de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Et bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, on va continuer sur le volet psychanalysé politique avec Herbert Marcuse. Auparavant, je vous propose un article d'actualité et un commentaire de cet article. Oui, sommet, donc c'est lemonde.fr, le journal Le Monde, le 15 juillet 2026. Sommet de prendre des mesures dans son infirmerie psychiatrique, la préfecture de police de Paris fait appel. L'I3P, reçoit des personnes amenées par les services de police, le plus souvent dans un contexte de garde à vue ou en raison d'un trouble avéré à l'ordre public, pour évaluer la nécessité d'une hospitalisation en psychiatrie. La préfecture de police de Paris, sommée par le tribunal administratif de remédier en urgence à des atteintes graves aux libertés des personnes placées dans son infirmerie psychiatrique, I3P, annonce mercredi 15 juillet faire appel devant le Conseil d'État. Les injonctions prononcées par le tribunal administratif de Paris, qui repose sur une application erronée de la réalité du fonctionnement des I3P, font courir un risque pour la sécurité des personnes, explique la préfecture dans un communiqué transmis à l'agence France Presse le mercredi précédent l'article, annonçant interjeter appel devant le Conseil d'État. L'I3P reçoit des personnes amenées par les services de police, le plus souvent dans un contexte de garde à vue ou en raison d'un trouble avéré à l'ordre public, pour évaluer la nécessité d'une hospitalisation en psychiatrie. En 2025, 1456 personnes y ont été admises. Après une visite de l'I3P au début de mars par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, une autorité administrative indépendante, qui avait par la suite dénoncé des dysfonctionnements majeurs, le syndicat des avocats de France et la Ligue des droits de l'homme avaient saisi le tribunal administratif en référé liberté. Défaillance structurelle. Lundi, la justice administrative a enjoint au préfet de police de prendre un certain nombre de mesures, notamment pour garantir le respect de la durée maximale légale de 48 heures à l'I3P, limiter le recours à la contention, individualiser la pratique de l'isolement ou encore permettre le libre accès des personnes retenues aux sanitaires et à l'eau potable. Cette première injonction du tribunal administratif signifie concrètement que l'I3P doit laisser sortir sans prise en charge des personnes qui présentent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui, attesté par les examens psychiatriques réalisés, accuse la préfecture de police. Le préfet de police ne peut être tenu responsable de la défaillance structurelle du système hospitalier psychiatrique et de son incapacité à accueillir les personnes concernées en temps utile, ajoute-t-elle. La préfecture rappelle que les personnes placées en I3P ont généralement commis des faits d'une extrême gravité, 35% ayant commis des violences contre autrui. Par ailleurs, le recours à l'isolement est décidé sur le fondement de la dangerosité avérée du patient et est donc déjà réalisé de manière individualisée.
Ils disent pas qu'est-ce qu'ils ont commis, les 65% autres ?
Se défend la préfecture. Eh bien...
Puisque c'est pas des violences, apparemment. Alors, ils ont commis quoi ?
Oui.
C'est pas dit ?
Non, c'est un article du Monde. Bon, ça manque un peu d'holistique. C'est pas très holistique. Ouais. Donc, il y a un commentaire notre ami André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, suite au contrôle de la contrôleuse des lieux de privation de liberté, lui adresse cette lettre. Madame la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, j'ai pris connaissance de la recommandation que vous avez fait publier au journal officiel du 24 avril concernant les violations de droits commises sur les présumés malades mentaux, selon la terminologie du règlement intérieur de l'IPPP, soit I3P, de 1995, retenu dans l'infirmerie spéciale de la préfecture de police de Paris. Mercredi 3 juin prochain, c'est passé évidemment. Nous faisons un déplacement d'archives du groupe Information Asile de chez moi à un autre domicile. Dans une des caisses plastiques contenant ces archives se trouve la quasi-intégralité des contentieux déclenchés par le groupe Information Asile contre la préfecture de police de Paris à propos de son infirmerie spéciale depuis 1997. Ces contentieux n'ont pris fin qu'en 2014. Je trouve particulièrement choquant, écrit André Bitton, que les personnes retenues dans cette infirmerie spéciale puissent être enfermées jusque 8 jours de suite, faute de lit d'aval, alors même qu'au titre de l'article L3213-2 du Code de la Santé publique, les mesures provisoires prises par les maires et à Paris par les commissaires de police sont caduques au bout de 48 heures. Les personnes retenues devraient être libérées puisque retenues enfermées sans titre légal. Vous connaissez nos conclusions en la matière. Nous, les personnes psychiatrisées ou l'ayant été, sommes, pour le corps social, une infra-humanité sur laquelle à peu près tout est possible. Ce contre quoi nous avons milité sur les très longs cours, sur le fond d'une hostilité quasi généralisée. Nous ne pouvons même pas valablement avoir les uns les autres une histoire en propre, puisque s'agissant d'aliénés ou de malades mentaux, c'est à des professionnels de valider que nous puissions avoir une histoire personnelle quelconque, pire encore pour une histoire collective. Au surplus, j'ai eu à considérer, et j'ai fait constater autour de moi, que dans l'ensemble, les personnes connaissant un parcours psychiatrique et qui sont organisées dans les mouvements de patients officiellement recensés et financés à un titre ou à un autre par les pouvoirs publics, rejettent la lutte juridico-politique que nous avons menée. Elle les déstabilise. Le réformisme juridique est considéré comme un extrémisme. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir de nouveau pratiqué cette inspection de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police de Paris et d'avoir fait publier cette recommandation en urgence au journal officiel. Mes respectueuses salutations. André Bitton pour le CRPA. Voilà pour le commentaire. Et nous passons donc au vif de notre sujet.
Ouais, donc on peut rappeler vaguement quoi, quand même les épisodes précédents. Donc sur le concept général de psychanalyse et politique, puisque quand même on est sur une radio militante, la critique de la psychiatrie, il y a des gens qui répondent « Ah ben oui, mais on peut tout à fait allier les deux. » Et qu'il y ait des gens qui s'intéressent aux deux, visiblement oui. Mais déjà, ça ne démontre pas, parce que tu t'intéresses aussi à la politique, que la psychanalyse a le moindre intérêt. Alors, tu connais mon point de vue sur la question. Mmh. Ben, tu pourrais dire aussi, effectivement, militantisme et homéopathie. Ou, tu vois, je fais poudre de perlimpinpin. Mais enfin, le fait est qu'il y a une volonté de certains psychanalystes d'allier la politique et effectivement leur pitch de psy, quoi. Donc on a déjà, je pense qu'on a enterré Janeuf la dernière fois.
Hein, oui, on l'a enterré bel et bien.
La thérapie primale. Mmh. Il y avait des fois juste, il y a juste qu'elle est citée, et puis c'est bon. Mmh. Il y a eu Roger Dadoun, qui était, bon, là c'était carrément l'artillerie lourde, on peut le dire, qui en a fait encore Reich, ma foi.
Oui, hein. Reich.
C'est
oui.
Quand même un peu, voilà. Et oui, effectivement, Marcuse, j'en avais vaguement entendu parler. C'était plutôt par des marxistes, je dois dire, mais enfin c'est quelqu'un qui est une référence, quoi, hein. c'est pas du tout marginal comme référence, en fait.
Oui, il a beaucoup déjà les militants de 68 ont beaucoup aimé son discours.
Il y a des trucs, moi le truc que j'ai trouvé en lisant simplement même la page Wikipédia, puis deux trois trucs par-ci par-là, parce qu'il y avait des, je dois l'avouer, des locutions à quoi je comprenais absolument rien. Par exemple, quand j'ai demandé à Laurent, quand je te dis des sublimations répressives, tu me réponds quoi? Et il est resté quoi? Il m'a dit, j'en ai pas dormi de la nuit, en me demandant qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et déjà, t'as cette espèce de tendance qui, des fois, est présente facilement chez les marxistes, mais alors quand, en plus, facteur aggravant, c'est quelqu'un qui fait dans la psychanalyse, qui a également une petite tendance comme ça au vocabulaire abscon, on va dire. Ben, alors là, vraiment, le résultat est assez calamiteux, je veux dire, dans le genre. Hein. Et après, c'est compliqué pour critiquer un truc que t'as même pas compris qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Oui. Mais bon, en me creusant vraiment, en cherchant un peu partout, je crois avoir fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Et je dirais que, sur le fond, de toute façon, j'ai pas trouvé qu'il était ridicule, comme par exemple Reich, avec ses histoires de faire pleuvoir dans le désert, enfin, Reich a un côté assez farfelu, quoi. Ouais. Il fait le gars sérieux, quand même, hein, déjà, quand même, Marcus
oui.
Il en impose. Hein. Et puis, disons que, bon, c'est vrai que je pense que ça tient pas la route, mais j'ai pas trouvé ça totalement grotesque, et même, il y avait des passages où, en soi, j'étais d'accord avec ce qu'il dit. Le seul truc, c'est que pour y a des gens pour qui c'est pas banal, mais pour les anarchistes, ça fait bien plus longtemps que lui, enfin bien avant sa naissance, que des choses comme ça ont déjà été dites. Et j'irai pas jusqu'à dire que ça casse pas trop patte à un canard. En tout cas, ça mérite pas qu'on lui brûle des cierges comme si c'était quelqu'un qui avait inventé l'eau tiède. Tu vois, je veux dire, c'est... non, mais vraiment. Hein. Oui. Et pourtant, il y a des trucs qui disent, je suis d'accord. Quand tu liras certains passages, je dirais, bah là, oui, je suis d'accord. Mais bon, enfin, tu vois. Et puis après, je pense qu'on pourra dire quelque chose aussi sur l'idée même de vouloir établir un parallèle entre tout ce qui est d'ordre individuel, au sens vraiment l'épanouissement individuel, tu sais, ouais, qui pourrait relever du coaching ou de se confier à quelqu'un qui va vous aider à vous dépasser, enfin, tu vois, enfin, tous ces trucs-là, quoi, tous les trucs autour de ce qu'est psy. Et puis, ce qui est l'idée quand même générale des anarchistes, à savoir que on fait la révolution économique et sociale et c'est plutôt ce qu'on veut pas. Ce qui empêcherait, par exemple, d'avoir une sexualité épanouie, comme les conditions de vie, les conditions de travail, évidemment, et puis tout ce qui pourrait être une morale répressive, alors, pourvu qu'il n'y ait pas de contraintes physiques ou morales, évidemment. Donc, pour empêcher comme ce genre de choses, ok. Par contre, moi, sur tout le côté dirigiste, contrôle, voire pire encore éducateur, du genre m'apprenons à faire l'amour, hein, il y a un tract dans le temps qui s'appelait comme ça, occupe-toi de ton cul, je dirais. Ça me paraît, j'expliquerai pourquoi, ça me paraît extrêmement une source de confusion et même toxique de vouloir établir un parallèle avec l'exigence d'égalité et de lutter contre toute répression, c'est vrai dans les deux cas, mais on a une exigence d'égalité. Mais l'idée d'égalité dans le domaine sexuel, par exemple, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, à mon avis, c'est de la foutaise, à mon avis. Et ça t'aide pas enfin, c'est une source de confusion, je pense. Voilà.
Donc on va s'approcher.
Allez-y, vas-y, présente-nous. Donc, peut-être on va passer son enfance et même son, pour qu'on en vienne vraiment à ses idées, quoi.
Oui.
Enfin bon, c'est un gars qui s'est quand même battu contre les nazis, donc il a quand même un bon CV, c'est pas ça. Oui.
Bon, allez, rapidement. Il est né le 19 juillet 1898 à Berlin, mort le 29 juillet 1979 à Starnberg en Bavière. Il était un philosophe, sociologue, marxiste américain d'origine allemande, membre de l'école de Francfort avec Theodor Adorno et Marc Horkheimer. Marcuse est le premier fils d'une famille juive. Après le baccalauréat, il est appelé sous les drapeaux dans la Reichswehr. Après la guerre de 14-18, il milite au sein du mouvement spartakiste, adhère au Parti social-démocrate, mais le quitte après l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg en 1919. À l'université de Fribourg en Brisgau, il devient l'assistant de Martin Heidegger et rédige une thèse sur Hegel, mais il entre vite en désaccord avec Heidegger et part pour Francfort. C'est en 1932 que Marcuse entre pour la première fois en contact avec l'Institut de recherche sociale de Francfort. Dès la prise de pouvoir par les nazis en 1933, il émigre avec sa famille, d'abord en Suisse, puis aux États-Unis, après un bref passage à Paris. Il est engagé par l'Institut de recherche sociale, qui s'est appelé aussi École de Francfort, donc, qui s'est déjà installé à New York. En raison de la mauvaise situation financière de l'Institut, Marcuse doit accepter une position à l'Office of Strategic Services, OSS, où il travaille sur un programme de dénazification. Dès 1951, il enseigne dans plusieurs universités américaines. En 1955, il adopte dans Eros et Civilisation une lecture marxiste de Freud et critique le révisionnisme néo-freudien.
Oui.
Bon, nous n'allons pas préciser ce que c'est pour le moment. Il forge le concept de sublimation non répressive et dénonce le caractère déshumanisant et irrationnel du principe de rendement. Pour lui, le principe de rendement est le principe de réalité d'une société capitaliste fondée sur la résignation, la falsification des instincts et la répression des potentialités humaines.
Ah, là déjà, j'ai quand même des commentaires à faire, hein. C'est pas la peine d'aller trop vite surtout. C'est que, en effet, là il y a un petit côté, je réinvente l'eau tiède, c'est-à-dire que je vais le dire quand même un peu crûment, même les, je connais des ouvriers qui ont été ouvriers à la chaîne, et on n'a pas attendu après Marcuse, ils n'ont vraiment pas attendu après Marcuse pour comprendre que c'est que le travail d'usine était déshumanisant, tu vois. D'accord. D'ailleurs, je crois qu'il y a un truc de Charlot comme ça qui montre que Charlot sort d'une usine à la chaîne où il ne sait même plus ce qu'il fait. Ah,
ça doit être le film Les temps modernes.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais de toute manière, y a pas, c'est pas très compliqué à comprendre. Je veux dire, t'as pas besoin d'un intellectuel d'avant-garde pour comprendre que c'est déshumanisant. D'accord. Mais à part ça, il y a aussi même cette espèce de procès, j'ai souvent vu ça, c'est les procès d'intention qui sont faits aux capitalistes. Qui sont, enfin, je veux dire, le capitalisme n'est pas un diable sorti de l'enfer, c'est un système qui est quand même porté par des individus. Et les individus en question, ils ont un objectif qui n'est pas de déshumaniser les gens, non, mais qui est juste de se faire un max de pognon. Oui. Et comme l'avait dit à un moment donné, on avait reproché d'ailleurs à Dassault, j'en ai peut-être déjà parlé dans cette émission, je sais pas, mais un journaliste lui reprochait de licencier des ouvriers. Ils produisaient des avions de guerre, hein, quand même.
Bon, oui, bien sûr.
Déjà,
oui.
Bref. Ouais. Donc, ils commencent par dire, ah bah, c'est bizarre qu'on me fasse maintenant la morale, que je les mets dehors. Mais enfin, je vais vous dire un truc, l'objectif d'un patron n'est pas de procurer un emploi. C'est même pas d'embêter spécialement les ouvriers, ni d'embêter quiconque. Et d'ailleurs, même l'idée que les avions écrasent des populations, il en a juste rien à foutre, son objectif. C'est de se faire du fric, oui. C'est tout, si tu veux, et par n'importe quel moyen, et voilà, et c'est ça le principe. Donc si tu veux, le fait que ce soit déshumanisant, c'est bien logique, puisque de fait, ils n'ont pas du tout, enfin, je pense qu'on n'a pas, on peut pas se représenter le degré d'indifférence que peuvent avoir des patrons à l'égard des gens qu'ils utilisent. Et en effet, quand Dassault disait, ben, j'utilise des ouvriers quand j'en ai besoin, si une machine fait mieux le boulot et pour moins cher, je vais prendre une machine. Mon objectif n'est ni de les emmerder, ni de leur procurer un emploi. C'est pas. Si jamais c'est mieux avec une machine, ben, je ferai avec une machine. Mais il n'y a aucune espèce de relation, si tu veux. Les gens qui s'imaginent qu'il y aurait un rapport sadomasochiste, même, ou même sadique, avec eux. Je dis pas que ça n'arrive pas qu'il y en ait qui joignent l'utile à l'agréable, mais à la base, la plupart du temps, le patron, les ouvriers ne le voient même pas. Ils ne le voient même pas. C'est quelqu'un qui n'a aucune espèce d'intérêt pour lui, tu vois. Or, justement, quand les gens commencent à se mêler de psychanalyse, ils vont mettre un petit peu du relationnel et du psy dans tout. Or, c'est pas ça. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est pas ça. Vraiment, pour de vrai, c'est quelque chose de totalement, en effet, déshumanisé. À la base, t'es pas de leur sérail, ils te voient même pas. Ils te voient même pas, t'existes pas, je veux dire. Et donc, toutes les théories que tu peux avoir sur les rapports que tu as avec eux, faut vraiment pas être... Quelqu'un qui est dans une usine te dirait, mais le patron, je sais même pas à quoi il ressemble. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quand même très très souvent le cas. Et c'est un rapport qui n'est pas un rapport inter-individuel. Tu vois, quand Action Directe a tué le patron de Renault, un autre a été appelé araignée aussi sec, si tu veux, et les ouvriers ont dit, on leur avait rien demandé, de toute façon, on va en avoir un autre qui va être ni mieux ni pire. Et ils sont, nous, on est interchangeables. Enfin, on n'a pas de relation avec eux. C'est même pas, évidemment que tu en veux, mais il n'y a pas de relation. Enfin, je sais pas, donc, si tu veux, la psychanalyse est particulièrement inutile dans le cadre de l'exploitation.
En revanche, le marxisme permet quand même de distinguer cette chose-là.
Ah bah, ça se place sur le plan politique, voilà. Je m'excuse.
C'est ça.
Mais je veux dire, honnêtement, j'ai pas lu Marx, et j'y comprends pas grand-chose, si tu veux, aux théories marxistes. Mmh. Le seul truc, quand on m'a vaguement dit que ça parlait du fait d'exploiter les gens et profiter de la plus-value de leur boulot, c'est pas compliqué à comprendre, et je te jure que n'importe quel ouvrier l'a compris tout seul, sans que t'aies besoin de mettre le nez dans Marx. Non. C'est assez facile à comprendre, quand même. Tu vois combien t'es payé, tu vois combien il se fait avec ce que tu produis. Même le dernier des imbéciles a compris l'idée, quand même, non?
Ouais, alors peut-être que le formuler, comme on dit, ça fait du bien de le dire, je sais pas. C'est...
Ah bah tu peux le dire comme ça. Ouais. Mais je pense que si tu veux, quand les gens se révoltent, ils se révoltent sur une base qui est très concrète et qui est pas très difficile à comprendre. Le problème avec tous ces trucs-là, si tu veux, c'est que plus c'est dur à comprendre quand en plus ils rajoutent un vocabulaire. Ben moi, je sais pas, par exemple, on m'a essayé de m'expliquer 10 fois ce que ça veut dire matérialisme historique. N'essaie pas de recommencer, j'oublie en même temps qu'on me le dit. Je comprends rien, si tu veux. Et donc, je me dis, est-ce que, du coup, tu restes un peu... T'as besoin d'une avant-garde qui va un petit peu te cornaquer, parce qu'autrement, comment tu vas faire? Tu comprends pas... si t'as pas tout compris à l'économie, tu peux pas te révolter contre celui qui t'écrase la gueule, c'est pas possible.
Oui, puis c'est pas seulement de l'économie, c'est plein de philosophes et tout ça. Bon, par exemple, je vois matérialisme, comme tu dis là, je sais plus quoi. Je crois que ça vient de Hegel ou un truc.
Je crois que c'est Marx, non?
Oui, mais Marx qui s'est lui-même inspiré de Hegel. Enfin, Hegel a inspiré.
Ah, là, je suis savant, là, je suis impressionné. Oui, non, c'est. Même pas. C'est moi sorti de Placide et Museau, il n'y a personne.
Ah non, mais je sais pas grand-chose, hein, moi. Donc Herbert Marcuse. Alors après sur ces idées, je vais lire donc l'extrait de l'article de Wikipédia. Idée. Sa pensée est fortement inspirée de la lecture de Marx et de Freud. Contrairement à Freud, qui voyait dans le principe de réalité la nécessité de la sublimation répressive des désirs. Là, j'ai déjà décroché.
Attends. On va essayer de traduire en langage bourrin.
Oui.
Attends. Je pense, tu m'arrêtes si tu vois autre chose, qu'il veut dire, c'est quand même important, hein, parce que ça a l'air d'être assez central, qu'il veut dire que, tu m'as dit tout à l'heure, que tu savais ce que ça veut dire sublimation, et donc c'était, rappelle-moi...
Alors oui, non, la sublimation, c'est la transformation d'une énergie... disons que c'est un peu le pendant du refoulement, soit on refoule, soit on sublime... c'est-à-dire qu'on laisse sortir quelque part, on laisse s'exprimer quelque chose, mais qui n'a pas un rapport tout à fait. Enfin. Oui, c'est, voilà, ça y est.
C'est comme quand tu fais de la gym ou de baiser, par exemple.
Oui, voilà. Bon exemple. Et voilà, donc la sublimation répressive des désirs, donc ça peut être justement par une forme de. Alors, peut-être masochisme, je sais pas ce que ça peut...
Sublimation répressive. Non, mais j'ai l'impression, en ayant lu d'autres passages de Marcuse, que ce qu'il veut dire, c'est que tu sublimes, mais en même temps, du coup, que tu vas avoir autre chose que ce que tu aurais vraiment envie. Oui. Par exemple, baiser, puisque j'ai cru comprendre que c'était quand même ça l'idée générale. Tu vas... tu vas être facilement manipulable.
Oui, bah, par exemple, au lieu de développer dans ton énergie sexuelle pour baiser, justement, bah, tu vas peut-être la mettre dans le travail ou dans l'effort physique.
Ou t'acheter une centrifugeuse.
Ouais.
Bah oui, parce qu'à un moment donné, il dit que, du coup, les gens, ils consomment par frustration, justement.
Oui. Aussi. Donc on peut... Ouais, bon. C'est ça, voilà, c'est la sublimation. Donc Freud voyait dans le principe de réalité la nécessité de la sublimation répressive des désirs, parce que quand même, faut pas déconner, on ne doit pas baiser à tout va toute la journée.
Ah, parce que tu veux dire, Freud, lui, était un peu cul serré à côté de ça.
Bah apparemment, oui.
Ah d'accord.
Marcuse, à la suite de la lecture de Marx... dénonce l'inhumanité du principe de réalité répressif, qui n'est autre que le principe de réalité de la société en place. Donc un peu comme Reich, un peu, c'est parce qu'on ne fait pas assez l'amour qu'on est... Il préconise au contraire l'éclosion des désirs, la transformation de la sexualité en éros, l'abolition du travail aliéné et l'avènement d'une science et d'une technique nouvelle qui seront au service de l'être humain.
Attends, parce que là, il y a trois trucs. Et j'ai des trucs à dire sur chacun des éléments en question. D'accord. Alors, je commence par le plus simple, le dernier. Je suis complètement, on en parlait tout à l'heure, je suis complètement d'accord personnellement avec l'idée que le problème, c'est pas la science, mais c'est le capitalisme et c'est l'usage qui en est fait. Comme tu dirais, un marteau peut servir à casser une tête ou à planter un clou. Tu vois, enfin bon, il y a des technologies qui servent à rien ou qui sont uniquement nocives.
Oui.
Je pense que le nucléaire, on peut s'en passer, par exemple, tu vois. Mmh. Mais tu as des technologies que je renie absolument pas. Enfin, sans vouloir faire le détail, je suis pas du tout, je suis très loin d'être anti-tech, tu vois. Et même des gens qui se disent anti-tech utilisent la technologie parce qu'ils trouvent ça pratique. C'est un peu ça l'idée. Hein. Bon. Mais donc, sur ce truc-là, je suis d'accord. C'était quoi le deuxième
ah bah, la grande idée, c'est aussi la transformation de la sexualité.
Oui, mais ça, je te garde pour la fin.
Ah, pour la fin, d'accord. Oui. Sinon, l'abolition du travail aliéné...
Ah, bah, garde, bah oui, mais enfin, bon, là, pareil, je suis entièrement... Ah, bah, alors là, je suis d'accord, bah, oui, je précède de 100 kilomètres. Il n'y a pas de souci, mais en même temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça casse pas trop patte à un canard. Enfin, je veux dire, il n'est pas vraiment le fer de lance de cette idée-là. Il y en a eu d'autres, quand même. À moins que jamais... Ou alors là, je dirais respect, à moins qu'il était le tout premier à remettre en cause l'idée du travail. Parce que pour moi, travail aliéné, c'est un peu un pléonasme.
Alors,
si tu veux.
Oui, mais justement, c'est là que je me demande pourquoi on ne dit pas, à cette époque, où le marxisme était quand même triomphant, l'abolition du travail tout court.
Bah parce que, après, c'est une question de vocabulaire, je dirais, parce que nous, par exemple, on aurait tendance à dire que on appellerait ça autrement si c'est une activité qui est volontaire et qui est faite dans la bonne humeur, on va dire, et puis dans le consentement, enfin, plus que le consentement, oui. dans même, pourquoi pas, enfin, que tu te dises, il y a des trucs que tu... Bah là, par exemple, si on était payé, on dirait que c'est un travail. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Bah, c'est vrai. Oui. Mais bon, donc...
Ouais, puis il a fallu se lever tôt, en plus.
Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, donc, à partir du moment où il y a des choses que tu fais volontairement, on pense, nous, qu'il vaudrait mieux utiliser un autre terme, mais que lui a envie de le garder, d'ajouter aliéné. Je ne sais pas exactement en quoi consiste sa critique du travail, où il voit la limite du travail aliéné, mais en tout cas, ça me plaît bien qu'il y ait une critique du travail. Mm-hmm. Si tu veux, qu'on dise aliéné en même temps que travail, j'aime bien. Parce que moi, personnellement, j'ai été trop saoulée par des anarcho-syndicalistes qui ont la valeur travail, mais jusqu'au trognon, hein, vraiment. Mais donc, voilà, ça, je trouve ça bien. Donc, tu vois, j'ai pas lu. Tu vois, je pars pas de l'idée de le pourrir. Le simple truc, c'est que je vois pas forcément le rapport avec la psychanalyse. Est-ce que, à titre individuel, je veux bien croire qu'en ayant voir quelqu'un qui soit psychanalyste ou simplement en parlant avec un copain, parce que ça soit d'un point de vue psychologique, parce que je réfute totalement l'idée que ce soit une spécialité, tout ce qui est psy, si tu veux. Je pense que tout ce que peut apporter un psy peut être apporté par quelqu'un qui est bienveillant, qui écoute, qui est de bons conseils, tu vois. Et que je réfute l'idée que tu puisses avoir un statut particulier avec le vocabulaire y afférent, tu vois. Parce que tu serais psy, tu aurais des compétences que le commun des mortels n'aurait pas. Mais l'idée qu'à titre individuel, tu puisses te dire « j'en ai ras-le-bol de bosser », j'ai des exemples autour de moi, par exemple, c'était le cas de Nicolas, à un moment, il en a eu marre de bosser, puis il a arrêté de bosser, voilà. Mais je dois dire que moi-même, je ne suis pas une championne du travail, et j'en connais d'autres comme ça, enfin, j'ai jamais tellement travaillé, donc si tu peux, on ne peut pas dire que j'ai... C'est quelque chose que je ressentais spontanément, l'idée de l'aliénation du travail, donc en tout cas, je pense que ça peut aider à titre individuel. Le problème quand tu es militant politique et révolutionnaire, c'est que je vois pas, encore une fois, par quel truchement tout ce que tu peux faire pour ta propre, pour les vies individuelles, comment ça pourrait s'agréger de telle manière qu'il y ait une révolution sociale et libertaire, tu comprends? C'est pas à cette échelle-là, c'est pas de cette façon-là, on fera pas l'économie d'une bagarre déjà, tu vois, parce que les privilégiés, ma foi, se laisseront pas faire et surtout tenderont la marée chaussée, tu vois. Et donc déjà, il y a un peu cet aspect-là, mais à titre purement personnel, je trouve ça très sympa de critiquer le travail. tu vois. En revanche, il y a cette histoire de transformer la sexualité en érose.
Oui.
Alors là, excuse-moi, mais je ricane. Si tu savais combien on envoie quand on est une gonzesse, des mecs comme ça, ça me fait exactement, enfin, je veux dire, dans le genre, avec moi, cocotte, tu vas grimper au rideau. Bah oui, c'est quand même l'effet que ça fait un peu vantard, hein, comme, oui, oui. Oh, avec moi, c'est pas, oh, là, ça va pas être même, tu vas être très surprise, ma chérie. Jamais tu vas t'en rappeler un moment, hein. Je te le dis. Non, mais c'est vrai, quoi. Ça veut dire quoi? Transformer la sexualité en éros, c'est, il y a un côté, tu sais, c'est au-delà, quoi, tu vois. Bon, comme en plus, bon, je te dis, j'ai vu sa photo et c'est pas Joey Tempest, hein, on va dire, ben, il fallait qu'il ait un peu de baratin et aller voir les gonzesses en leur disant, moi, je transforme la sexualité en éros. Comme dirait l'autre, sur un malentendu, ça peut marcher. Tu vois, je veux dire, je sais pas, je trouve ça tellement, mais blaireau, tu veux, mais bouffon, de dire des trucs pareils, quoi. Tu vois, je sais pas, c'est comme Reich, c'est un petit peu quand même sa tête de gondole, l'idée de la baise, ça serait bien de bien baiser. Alors, j'étais en train, justement, on reprendra un peu le journal Sexpol qui s'inspirait beaucoup de Reich, justement, et où il y a des articles comme ça sur des gens qui se plaignent que même dans les milieux militants, ils trouvent pas à se soulager autant qu'ils le voudraient, etc. Enfin, et si tu veux, d'une façon générale, cette idée de mettre, comme je te disais tout à l'heure, sur le même plan, l'idée d'égalité économique et sociale et l'idée d'égalité dans le domaine des sentiments et de la sexualité, c'est une super mauvaise idée. Et plus d'une fois, j'ai entendu des gens avoir des fantasmes de ce genre. En société libertaire, je me rappelle d'un mec qui faisait des émissions d'ailleurs à la radio, qui s'appelait Polo, qui était assez, enfin, qui en sortait de toutes les couleurs, hein. Par exemple, on autogère bien les usines, pourquoi on autogérerait pas les femmes? C'est genre authentique et au premier degré, hein, attention. Mais comment dire, bah justement, il disait qu'il pensait qu'en société anarchiste, eh ben, il pourrait se taper, il ressemblait un peu à Michel Simon, c'est vrai, enfin, un peu beaucoup même. Et donc, il pourrait se taper toutes les femmes, lui sauteraient au paf, quoi. Il voyait vraiment les choses comme ça. Et ben, les femmes se disaient finalement, la révolution, c'est peut-être pas une bonne idée, tu vois. Et si tu veux, c'est quelque chose que tu peux pas distribuer comme tu distribuerais équitablement les logements, la bouffe, etc., tu vois. Et c'est un truc qui est compliqué à comprendre. Parce que c'est vrai que c'est injuste. Je vais te donner un exemple. Je suis très exemple, hein. Moi, faut pas compter sur moi pour le vocabulaire compliqué. Mais à une époque, j'ai été animatrice, tu sais, pour des enfants de 4 ans, tu vois, enfin qui étaient en colo, quoi. Et ils étaient, bon, il y avait une table de mettons 8 gosses, tu vois, et donc on distribuait équitablement la bouffe entre les gosses. On la distribuait même tellement équitablement que, comme on était adulte, on avait souvent double de dessert. Et en fait, on se débrouillait pour découper le surplus, pour que pas avoir la bouffée de gâteau pendant qu'ils en bouffaient qu'un. Enfin, tu vois, donc vraiment cette notion d'équité. Là, tu peux comprendre. C'est un peu en rapport avec la notion d'égalité qu'on peut avoir dans le domaine économique, si on peut, enfin, au sens large, quoi, et social. Tu distribues équitablement, grosso modo, on va dire. Hein, oui, oui. Il y en aura peut-être qui ont une belle maison. Une plus belle maison que d'autres, mais bon, on espère que tout le monde, enfin, ça sera distribué le plus équitablement possible, quoi. Il n'y en aura pas un qui aura 10 maisons pendant que les autres seront à la rue, enfin, comme dans la société où on est, tu vois. Donc, cette notion-là, c'est quelque chose que tu peux contrôler, calculer, si tu veux. Mais alors, le problème, c'est que comme ils étaient en colo, ils recevaient du courrier des parents, ou pas. Bon, il y avait des gosses qui ne recevaient pas de courrier des parents, mais pas du tout, tu vois. Et il y avait même des parents qui avaient écrit pour dire « Me donnez pas de ces nouvelles, j'en veux pas ». Enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, le truc, c'est que j'étais allée voir la directrice en disant « On peut plus faire ça ». Parce qu'elle avait décidé qu'on distribuait le courrier pour les enfants, qu'on devait lire, hein, soit dit en passant, comme ils étaient petits. Mais enfin, on leur distribuait les cartes postales, le courrier, après le repas. Mais au moment où ils étaient tous à table. Donc, évidemment, que dit un petit, il dit pourquoi lui il a un courrier et moi non. Et là, t'es dans la merde. Tu vois, tu te dis, bon, va-t'en lui expliquer effectivement cette question-là, quoi. Donc j'ai dit, il faut pas qu'on mette sur le même plan la distribution équitable de bouffe et la distribution de courrier, parce que c'est pas équitable. Oui, il y en avait qui étaient plus aimés que d'autres, et je pense vraiment sincèrement que dans une autre société, une société plus égalitaire, où les gens ne seront pas aliénés et crevés par le travail, effectivement, où ils ne seront pas non plus vieillis prématurément par le travail d'ailleurs, où ils auront des meilleures conditions de logement, où on aura plein de temps et d'occasions pour se rencontrer, je pense vraiment que globalement, sans que la société intervenir sans aucun contrôle de la société, spontanément ça se passerait mieux, mais on peut pas garantir que les gens seront toujours qu'ils attireront les gens qui les attirent, qu'ils attireront tous autant des partenaires potentiels que ça sera équitable de ce point de vue là. Je veux dire, je lisais là un truc dans Sexpol où il disait, ouais, les notions de laideur et de beauté, faudrait les dépasser. J'en ai entendu aussi des comme ça, mais malheureusement, en général, les mecs qui te disaient, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de la beauté, ben, en général, ils allaient trouver des belles filles en espérant que, voilà. Et il y avait même un numéro d'actuel. Enfin, c'est-à-dire que eux, ils avaient une notion de la beauté, mais toi, t'étais censé la mettre dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et dans un actuel, il y avait carrément un mec qui disait, si on était en société libertaire, il y aurait une maison où les belles filles iraient passer leur journée pour pouvoir se faire baiser par qui veut. Tu vois? Et il y avait quand même eu une réponse dans le même journal d'un mec qui avait dit faut demander peut-être l'avis des filles en question. Oui. Elles vont peut-être être plus tièdes pour l'idée. Tu vois. Si, c'est vrai, si tu veux, c'est un truc. J'espère me faire comprendre, même s'il y aura une amélioration, tu ne peux pas garantir l'égalité. C'est pas un domaine où il peut y avoir l'égalité. Et le fait de se sentir bien, de se sentir mal, d'avoir plus ou moins de talent, d'aptitude à supporter la vie, c'est quelque chose qui peut pas se contrôler comme on pourrait, j'espère, contrôler au maximum l'idée de la distribution d'un point de vue alimentaire, logement, soins, etc. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est de toute façon une très mauvaise idée de faire un parallèle, je pense. Alors, Marcus, oui.
Oui, alors qu'est-ce qu'on peut...
Ah non, parce qu'il y en a une autre. Et puis il y a des trucs où c'est pas si mal, je trouve.
Alors, l'abolition... Donc, il ne remet pas en question l'essentiel des théories freudiennes. Il les complète plutôt en les adaptant à son temps et en les libérant d'une conception bourgeoise de la société pour les rendre émancipatrices et véritablement universelles. En revanche, il critique le révisionnisme néo-freudien qui tend à édulcorer le caractère subversif des découvertes de Freud. Marcus va néanmoins beaucoup plus loin que Freud lorsqu'il tente de penser une sublimation non répressive.
C'est pareil, hein, on est un peu...
Voilà.
Ça va plus
donc,
loin que Freud.
Donc, c'est pas... En réponse à la sublimation répressive de Freud, donc pour réprimer la sexualité, l'énergie sexuelle. Non, il n'est pas d'accord. Donc, Marcus est important pour les mouvements écologistes d'aujourd'hui, car il est l'un des rares à penser qu'une société non répressive impliquait aussi un changement dans les techniques, là où Marx pensait qu'un changement dans les rapports de production était suffisant.
Mais c'est bizarre. Je peux comprendre qu'il disait le contraire tout à l'heure, qu'il pensait qu'il était pour la technologie, pourvu que ce soit pas mal utilisé.
Oui.
Alors c'est pas clair tout ça.
On
ne sait pas. C'est pas clair parce qu'il dit pas précisément de quelle technologie il veut bien. Je t'ai dit tout à l'heure pas de nucléaire.
Mais disons qu'il fait la différence entre des technologies pour l'amélioration des conditions de vie de l'être humain et celles qui sont destructrices.
Ah oui, d'accord, je suis d'accord.
D'ailleurs, je peux faire entendre un petit reportage de 3 minutes. C'est pas un reportage, c'est une interview de Herbert Marcus lui-même, s'exprimant en français. C'était en 1971. Voilà, c'est une vidéo qui était sur Radio Suisse, Radio Télévision Suisse.
Je sais qu'on dit que la société industrielle avancée, c'est une société technologique ou même technocratique. C'est faux. Parce que cette société n'est pas du tout déterminée par la science ou la technologie, mais par des groupes sociaux qui contrôlent l'usage de la science et de la technologie. Et ces groupes dominants détournent la science et la technologie de leur but. Je crois que le but de la science, c'est l'amélioration de la condition humaine. Mais en fait, en réalité, le progrès technique est arrêté par ces groupes dominants et la science est détournée de son but. La science est détournée de son but parce que la science est employée pour le contraire, ça veut dire pour la destruction de l'humanité et la destruction de la nature. Je crois que c'est évident. Voir les sommes énormes consacrées aux armements, au gaspillage, au vieillissement planifié, etc. Voir, par exemple, l'emploi de la science et de la technologie pour le contrôle total des hommes. Je crois que cet usage infâme pervertit la puissance libératrice de la science en puissance de l'asservissement. En conséquence, pour la gauche, il ne s'agit pas du tout de nier la science et d'arrêter le progrès technique. Au contraire, il s'agit de briser l'emploi de la science dans la répression et dans la destruction. Je crois que la libération de l'homme ne se fait que par la libération de la science.
Est-ce que cette libération de la science, professeur, ne peut se faire que par un changement de structure, c'est-à-dire par une révolution ?
En tout cas, ça se peut faire seulement par un changement de la structure de la société établie. Mais quel changement, ça c'est très difficile à dire. Vous m'avez demandé s'il y a une révolution, une situation révolutionnaire aux États-Unis. Je crois que non. En tout cas, je crois qu'un changement commencera si la stabilité et la prospérité relative du capitalisme américain s'affaiblit. Et dans ce cas, on a deux directions fondamentales. Une vers un nouveau fascisme et l'autre peut-être vers le socialisme.
Je suis d'accord jusqu'au truc de savoir dans quelle mesure, effectivement, quand il dit je sais pas quelle société, j'ai quand même l'impression qu'il est marxiste. Et quelque part, pour nous libertaires, on a quand même une idée du type de structure qu'on voudrait pas. C'est pas tant qu'on voudrait mettre en place ça, mais par exemple, pas de chef, pas de propriétaire, pas de patron, pas de politicien, pas d'armée, pas de flic, etc. Donc pas de prison. Enfin bon. Mais effectivement, je suis bien d'accord qu'il faudrait une révolution. Après, est-ce que l'affaiblissement du capitalisme aboutira à une révolution ? Ça, franchement, ça demande clairement à être démontré. Mais par ailleurs, je remarque une fois de plus que le problème, c'est que je vois toujours pas de rapport de cause à effet, en tout cas pas dans le sens la psychanalyse aurait une influence quelconque politique, si tu veux. On n'en voit toujours pas. Quand il dit un truc pertinent, c'est du point de vue politique.
Oui, oui.
Du point de vue psychanalytique, il dit rien de pertinent.
Il n'y a aucune trace de psychanalyse non. dans ce qu'il vient de dire.
Oui, voilà. Et donc là, je dis, ah bah oui, je suis bien d'accord, sauf là, le truc où je suis pas d'accord, mais je trouve que ça peut se discuter, tu vois. Mmh. Tandis que son histoire de changer la sexualité en héros, ça me fait pouffer, hein, vraiment, je te jure.
Ok.
Glousser, ricaner. Donc, qu'est-ce qu'il dit d'autre?
Alors,
parce qu'il y avait un autre truc sur la tolérance, j'avais trouvé pas mal dans sur la page Wikipédia.
Oui, alors je poursuis la lecture de la page Wikipédia consacrée à Herbert Marcuse. Alors, d'ailleurs, les recherches portées par Freud et plus tard par Marcuse insinue qu'une société soumise, par exemple, par un mouvement d'industrialisation avancée, devait avoir recours à une révolution pour permettre à la population de l'époque à mieux avancer en tant que société. Il est notamment l'auteur de L'homme unidimensionnel.
Je crois que j'ai sauté quelque chose.
Oui. Donc, à la suite de l'échec de la classe ouvrière causé par le manque de volonté face à créer une révolution, la thèse marcusienne a vu son premier jour en 1968. Pour ce faire, Herbert Marcuse s'est penché sur les rapports entre la société et l'individu. Cette relation répressive a été de plus en plus développée grâce au mouvement communiste et à la psychanalyse. En d'autres mots, selon Freud et Marcuse, la façon de vivre des individus d'une société est majoritairement influencée par le mouvement de pensée imprégné par l'État. D'ailleurs, les recherches portées par Freud et plus tard par Marcuse insinuent qu'une société soumise, par exemple, par un mouvement d'industrialisation avancée, doit avoir recours à une révolution pour permettre à la population de l'époque à mieux avancer en tant que société. Il est notamment l'auteur de L'homme unidimensionnel, 1964, qui veut démontrer le caractère inégalitaire et totalitaire du capitalisme des Trente Glorieuses. Ses affirmations lui valurent des critiques, notamment celles qui proclameraient la tolérance envers toutes les opinions, sauf les opinions qui perpétuent la servitude, malmènent l'autonomie au profit du statu quo répressif et protègent la machine de discrimination qui est déjà en service. Pour Marcuse, la tolérance envers des idées qui servent le système de domination, la tolérance, oui, voilà, on en arrive là, on y arrive, qui servent le système de domination et d'oppression, est une dénaturation du concept de tolérance. Marcuse oppose la vraie tolérance, qui est nécessairement émancipatrice, à une perversion opportuniste de l'idée de tolérance, qu'il qualifie de tolérance répressive. Selon Marcuse, c'est la tolérance répressive qui a autorisé la prise du pouvoir par le parti nazi en Allemagne. Pour Marcuse, une des réalisations de la civilisation industrielle avancée est la régression non terroriste et démocratique de la liberté. Mmh. Attends. Je remets un peu les choses dans leur contexte. Bon, une des réalisations de la civilisation industrielle.
Mais c'est peut-être lui qui n'est pas clair.
Non, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est. Attends. Il faut aller jusqu'à la fin de la phrase. Mm-hmm. Pour Marcuse, alors, c'est mal rédigé par les rédacteurs. J'ouvre le guillemet. Une des réalisations de la civilisation industrielle avancée est la régression non terroriste et démocratique de la liberté, la non-liberté. On y est, d'accord. Donc, pour les conditions de la civilisation industrielle passent par la régression de la liberté. La non-liberté efficace, lisse, raisonnable, qui semble plonger ses racines dans le progrès technique même.
J'ai rien compris.
Ouais, là, non, j'ai pas du
tout. C'est peut-être une mauvaise traduction, mais j'ai rien compris. Ouais, là, j'essaierai même pas, je te jure.
On s'empêtre.
Ouais, mais...
Alors, simplement dernière phrase de l'article. Les sources de la pensée de Marcuse ne se trouvent pas seulement dans la lecture combinée de Marx et de Freud, mais aussi dans celle de Hegel, Husserl et Lukács.
Oui, bah là, tu vois, ça me coupe la chic, parce que tu penses bien. Non, j'exagère en disant que j'ai placé des museaux, mais quand même, ma culture, c'est quand même beaucoup la BD. Hein. Oui. Donc, mais sincèrement, j'insiste un peu. C'est pas parce que tu lis d'une main Freud et de l'autre Marx que tu associes forcément les deux. Je veux dire, c'est vrai, quoi. Il y a des trucs que tu fais séparément. Il a toujours. Aucun de ceux qu'on a étudiés jusqu'à présent n'a démontré, mais pas du tout, par quel truchement tu pourrais en effet en arriver, à partir de Freud, que tu pourrais en arriver et de la psychanalyse. C'est-à-dire que tu étudies individuellement ton passé, tu t'interroges sur toi-même, tu fais du coaching, pourquoi pas. Enfin, à partir de quand ça aurait un effet politique. Bah, Laurent me disait par exemple qu'en effet, pour lui, une révolution, ça peut être que collectif. Et je veux bien que un par un, tous les gens exploités aillent sur le divan d'un psychanalyste, ce qui est pas forcément dans leurs moyens d'ailleurs, mais enfin bon, c'est pas sérieux, quoi, c'est pas sérieux. Et quand tu leur poses ces gens-là des questions concrètes, ils disent mais comment tu vois ça, et ils te noient complètement le poisson, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu parles des deux. Enfin, tu peux effectivement en même temps collectionner les timbres et puis lire Malatesta, mais ça veut pas dire forcément qu'il y a un rapport entre les deux. Et ce rapport, ils le font jamais.
On le voit jamais, non, en tout cas, apparaître, oui, c'est vrai.
Non, le seul truc, effectivement, tu dis, bah oui, bien sûr. Enfin, c'est pour ça que je tenais quand même à relativiser. Je pense que les gens qui se figurent qu'ils vont se taper des top modèles quand ça sera une révolution libertaire, faut quand même calmer leur joie, si tu veux, mais en même temps, le fait est que j'en suis absolument convaincu, parce que c'est l'évidence même, dans des meilleures conditions sociales, ça se passe, beaucoup de choses se passeraient plus facilement. Mais après, faut pas comparer ce que c'est que l'idée de l'égalité sociale, encore une fois, et ce que c'est que l'idée que tu pourrais vraiment en arriver à ce que tout le monde puisse avoir une sexualité épanouie. De toute façon, même à titre individuel, je sais pas si les gens qui font une psychanalyse, ni les psychanalystes d'ailleurs, quoi qu'ils puissent en prétendre, sont plus épanouis et plus épanouissants sur ce plan-là, quoi. Tu vois, ça n'a jamais été démontré. Ça, pour moi, son histoire de transformer la sexualité en éros, c'est quand même un peu des rodomontades. Enfin, moi, c'est d'avant-tardiste pour moi, c'est tout. Voilà.
Alors, peut-être qu'il y a une... Comment dire ? Il y a un moment, il aborde la question, le concept d'inconscient dans son discours. Mais l'inconscient humain ou l'inconscient individuel, mais l'inconscient...
L'inconscient, c'est l'inconscient, en général, c'est nous, non ?
Ouais, mais alors chez lui, comme quelque chose qui a été colonisé par la société industrielle avancée et ses techniques d'ingénierie sociale.
Hein ? Il veut dire que c'est récupéré par la pub pour, par exemple, tonton inconscient, des hommes ont envie de se taper des top modèles et on leur fait croire que s'ils boivent le café truc ou qu'ils mangent le camembert machin, ils vont se taper un top modèle, ce genre de truc, non ?
Sans doute, ouais, voilà, ouais. Mmh.
D'accord.
Voilà.
Oh, excuse-moi, hein, moi c'est toujours un langage bourrin. Hein. Bon.
Eh bien voilà, je pense que ainsi se termine l'émission. On va finir par un petit morceau de musique. Voilà.
C'est quoi que tu vas nous mettre en musique?
Alors, je crois que ça s'appelle Tombouctou, le groupe. Et le titre, ça peut être traduit par Un corps pourvu d'une tête.
Juste une parenthèse, je crois qu'il n'y aura pas d'émission mercredi prochain.
Non. Il n'y aura pas d'émission mercredi prochain. C'est bon.
Donc, Tombouctou.
Et on est toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu et sans maître. Et je clique pour avoir la chanson. Radio Libertaire, et nous vous proposons maintenant la rediffusion de l'émission Pas de quartier qui a été diffusée hier en direct.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes. Qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Ou moi, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'Alice, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du tout de Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir.